Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser qui inaugure une nouvelle semaine consacrée à l'aveu sous toutes ses formes avec Bernard Harcourt, professeur de droit et de sciences politiques à l'Université de Columbia à New York et directeur d'études à l'EHESS. L'aveu est une pratique complexe et controversée. On le retrouve dans la justice, bien sûr, mais aussi en médecine, notamment en psychiatrie et en psychanalyse, dans les rapports éducatifs, religieux, familiaux, amoureux. Il est devenu, en Occident, écrit Michel Foucault, l'une des techniques les plus hautement valorisées pour produire le vrai. Nous sommes devenus une société singulièrement avouante. Fin de citation. Et c'est parce qu'il est une technique de pouvoir, mais aussi une pratique de subjectivation, l'occasion de nous constituer comme sujet tout en se reconnaissant dans une instance de pouvoir, qu'il continue d'être sans cesse recomposé, reformulé. L'aveu est par nature ambivalent. Il constitue le sujet dans sa reddition à un ordre, il diminue celui qui admet sa faute, en même temps qu'il l'augmente en lui faisant retrouver une puissance originaire d'affirmation du bien. À moins qu'il soit exclusivement stratégique, comme le calcul rationnel que font les entreprises qui décident de collaborer avec l'autorité fiscale ou avec le procureur. Parfois même, il peut être compulsif et procurer une sorte de satisfaction morbide à la répétition. Et nous allons donc explorer toutes ces dimensions de l'aveu durant cette semaine, en commençant par Foucault. On sait que ce dernier lui a accordé une très grande place dans son œuvre et nous avons la chance d'attraper au vol, lors de l'un de ses passages à Paris, Bernard Harcourt, professeur à la fois à New York et à Paris, qui a édité avec Fabienne Brion le cours de Michel Foucault de Louvain en 1981, qui était précisément intitulé « Mal faire, dire vrai, fonction de l'aveu en justice », co-édité par les presses de l'Université de Chicago et les presses universitaires de Louvain. Bonsoir Bernard Harcourt.
Bonsoir Antoine Garapon.
Alors, vous avez édité ce cours, un cours de 81, qui est un peu atypique, il n'est pas dans la collection de tous ceux qui ont été édités au Seuil. Il a cette réflexion sur l'aveu assez tôt, en 1981, au contraire, plutôt vers la fin de la carrière de Michel Foucault. Il représente quelque chose de particulier dans son œuvre.
Oui, c'est un cours un peu exceptionnel comparé aux autres cours parce que il reprend vraiment, il tisse ensemble beaucoup de chapitres de sa pensée antérieure pour la pousser dans une nouvelle direction et donc ça a un arc de plusieurs siècles qui fait un trajet à travers vraiment de Homère et de Sophocle jusqu'au présent. Je veux dire, donc on finit avec Robert Badinter.
C'est ça, on termine avec Robert Badinter, sa plaidoirie en défense de la Fricande.
1977. Donc on commence avec Homère, on finit avec Badinter. Donc il y a vraiment un parcours remarquable dans ce cours qu'on ne retrouve pas tellement dans les autres cours. Donc il y a cet élément, mais aussi il y a l'élément que c'est vraiment un tournant. Il est en train de se pousser dans une direction avec cette analyse de l'aveu en 81. Comme tous les chapitres, comme toutes les interventions de Foucault, il faut les situer un peu dans son propre trajet intellectuel, parce qu'il est toujours en train de se faire un peu un correctif. Et c'est précisément un correctif ici qu'il est en train de faire.
Qu'est-ce qu'il cherche à corriger? Il cherche à corriger une approche exclusivement répressive de la justice et de l'aveu.
Non, je dirais qu'il cherche plutôt à corriger l'emphase sur le savoir-pouvoir sans le sujet. C'est vraiment le moment, une année ou deux après, avec l'herméneutique du sujet, etc. Mais c'est un moment où il est vraiment en train d'essayer de nouer cette troisième dimension à son étude du savoir et du pouvoir.
Il est plus intéressé par le rapport du sujet à lui-même auquel il va consacrer le dernier cours d'ailleurs, ou les derniers cours.
Oui. Mais ce qui me donne l'impression que j'ai, c'est que vraiment ce cours est en train de reprendre la pensée de Surveiller et punir et du premier volume de l'histoire de la sexualité, où il avait parlé de l'aveu en signalant quelques idées, vraiment. Mais il va reprendre ces thèmes de ses grands livres dans Mal faire dire vrai pour ajouter cette dimension subjective, avouante, au processus de gouvernementalité. Okay. Donc il avait déjà déplacé la répression en 75 et 76 par cette notion de la productivité qui ira vers la question de la gouvernementalité et comment on se gouverne soi-même et les autres. Mais c'est vraiment ici en 81 à Louvain qu'il se penche vraiment sur la fonction de l'aveu dans la véridiction, dans la production de la vérité, des régimes de vérité, et aussi dans la juridiction, dans la production de la justice.
Oui, c'est ça. Alors, il parle d'ailleurs à la fin du livre de gouvernement par la vérité.
Exactement, voilà. Exactement. C'est ça l'idée qu'il est en train de développer dans ses cours, et c'est vraiment remarquable. C'est la manière dont on se gouverne.
Vous alliez dire, on se gouverne soi-même.
Oui, oui.
C'est ça.
Et ça manquait un peu dans Surveiller et punir. Ça manquait quand même un peu dans Surveiller et punir. Et il le dira dans des entretiens. Il le dira en 84 dans des entretiens que il faut toujours comprendre la discipline, le panopticisme, tout le travail qu'il avait fait sur la prison dans Surveiller et punir. Il faut toujours comprendre ça maintenant avec le sujet. Qu'on ne peut pas les deux roues seules du savoir et du pouvoir sans la subjectivité. Donc ici l'aveu et la manière dont on se place dans un régime de vérité soi-même, c'est ça qui manquait un peu et c'est ça qu'il introduit là.
Foucault, je parle sous votre contrôle, Bernard Harcourt, Foucault n'aimait pas être enfermé par une cause particulière. C'était un militant et d'ailleurs il s'en explique d'ailleurs au début du cours. C'est très intéressant. Je trouve que c'est peut-être un des cours où il parle le plus de lui-même au début et de son projet intellectuel. Je trouve ça d'ailleurs très très intéressant. Il dit oui, je suis un militant, mais on peut pas réduire mon œuvre à celle d'un militant. J'essaie de comprendre et de comprendre ce rapport du pouvoir et ce rapport de la connaissance qui est un rapport qu'on ne peut pas limiter aux institutions. Comme on aurait pu le penser, comme une certaine lecture de Surveiller et punir, qui l'a transformé en vulgate. Il aimait pas les vulgates, Michel Foucault.
C'est justement ça, Antoine Carapon, c'est justement ça, exactement. Donc, on l'entend dans ce cours, et c'est un cours qui à l'oral est extraordinaire. Je veux dire, ça se lit comme s'il est en train de parler d'une manière.
Il parle d'ailleurs de spatialisation de la parole. Je suis obligé de me mettre debout. La configuration ne me plaît pas, etc.
Exactement. Oui, parce qu'il était très conscient de tous ces éléments dans l'oralité, dans la présentation. Mais donc c'est cet aspect où et on le voit dans la première leçon, c'est celui du 22 avril sur Homère, sur l'Iliade, où
c'est la seconde. La première, c'est la conférence
inaugurale. Oui. Qui est vraiment frappante. Oui, oui. Donc la leçon du 22 avril, on le voit très bien dans ce contexte. Il est en train de développer le chapitre 23, la course des chars dans l'Iliade entre Antiloque et Ménélas. Et ce qu'il arrive à démontrer avec cet exemple remarquable, c'est la manière dont Antiloque se place dans lui-même, dans le régime de vérité de cette société grecque ancienne, hiérarchisée par la seigneurité des héros, et comment il se place lui-même exactement au bon endroit, à son âge, jeune héros qu'il est.
Jeune mais sage.
Exact. En faisant un quasi-aveu. Et donc c'est là où Ménélas lui dit bon allez jeune homme dis-moi que t'étais plus fort que moi, et bien sûr il l'avait déplacé avec ses chevaux avec une petite ruse, mais finalement il n'arrive pas à dire bien sûr, il n'arrive pas parce qu'il doit se situer dans cette hiérarchie sociale.
Oui. Alors c'est très contre-intuitif pour un lecteur moderne, parce que c'est une course de chevaux, c'est une course de chars, pardon, ouais. C'est une course ouais. de chars, où il y a un tournant autour d'un poteau, mais c'est pas une course pour distinguer le meilleur avec des prix, premier prix, deuxième prix, troisième prix, c'est une course pour restaurer l'ordre, la hiérarchie, une hiérarchie sociale.
Exactement, oui.
Alors donc c'est très paradoxal, ouais, parce que...
Ouais, ouais. Et c'est particulièrement intéressant, Antoine Garapon, quand vous avez dit c'était pas pour déterminer le meilleur, mais en fait c'était la notion de meilleur était différente. Voilà, donc voilà, la notion de meilleur, et comme il l'explique très bien, c'était pas qui est-ce qui peut courir plus vite, qui est-ce qui a des chevaux qui courent plus vite, etc. Il était à la borne, comme Foucault décrit, bien sûr, c'est du Homère, c'est Homère qui parle, mais quand ils sont à la borne, il y a Ménélas qui lui dit, écoute, arrête, je dois passer d'abord.
Hein, parce que je suis Ménélas.
Et puis lui, jeune homme, il dit bah non, je vais pas m'arrêter. Ménélas s'arrête, et c'est juste à ce moment-là qu'on voit le jeu du déplacement, le jeu de la jeunesse qu'il a emporté, etc. Et il le dira, c'est ça son aveu en fait, que sa jeunesse l'a emporté, n'est-ce pas? Et en faisant ça, il se place dans les relations de pouvoir. Et c'est ça que je pense que Foucault ressentait, qu'il n'avait pas assez puisé dans surveiller et punir, la manière dont on se placerait soi-même
spontanément,
exactement, dans une hiérarchie, dans une discipline, à travers ses propres sa propre gouvernance de soi-même.
Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il commence la conférence inaugurale par un entretien avec un psychiatre, où le psychiatre demande à un patient de en quelque sorte d'avouer ses symptômes, d'avouer que ses symptômes sont des symptômes de folie,
exactement,
d'avouer sa folie. Ouais. Alors, ouais. Revenons à notre course, parce que Foucault dit quelque chose qui, je trouve, très intéressante pour les juristes et puis pour la compréhension des épreuves de vérité. Il dit, il y a eu un continuum entre la course de chars, cette course qui était organisée entre des soldats qui avaient servi les uns pour les autres, d'ailleurs, pendant la guerre de Troie, et une vérité épreuve. La forme de vérité, expression très puissante chez Michel Foucault, qui est très ancienne d'ailleurs, et qui va porter un nom un peu barbare, si vous passez l'expression, Bernard Accourt, d'alléturgie. Alléturgie parce que...
Parce que c'est la vérité.
Allaiter la vérité, et puis turgie, ouais. C'est la production, l'ergonement. Alors, donc, la première forme de vérité, c'est une forme qui passe par le combat. C'est une forme agonistique, c'est-à-dire que le combat va tester quel est le combat, que ce soit la lutte, que ce soit la course de chars ou que ce soit cette joute orale qui suit, c'est une manière de tester la vérité.
Exactement. Mais ce qui est important, c'est une forme de vérité juridique. Oui. C'est ça qui l'intéresse ici. Et je veux dire, c'est ce qui lie ce cours de Louvain 81 à tous les séminaires au Collège de France, parce que c'est là où il était vraiment parti en 72, en 73, avec les institutions pénales et la société
pénale. Et puis la fameuse conférence de Rio,
et les conférences de Rio qui sont exceptionelles et fondamentales. 73,
c'est ça. Ouais. La vérité des formes juridiques, parce que je crois que ce texte est méconnu, et on le retrouve dans Dit et écrit, bien sûr, dans l'édition de la Pléiade. Ce texte est méconnu et il est absolument capital.
Capital, ouais.
Capital pour comprendre le mécanisme de la vérité.
Et pour comprendre tout le trajet, oui, vraiment au Collège de France, hein. Parce qu'on pourrait dire que tous les cours au Collège de France ont été, pourraient se nommer le pouvoir de la vérité ou les formes de vérité, production de formes de vérité. Bon, souvent il a utilisé le terme régime de vérité, mais je dirais que forme de vérité serait parfait pour décrire le parcours au Collège de France, parce que ça commence avec toute cette analyse des formes juridiques de la production de la vérité, qu'on voit bien dans Louvain, mais qu'on voit aussi à Rio. Forme juridique de la production de vérité à travers l'épreuve, à travers l'enquête, etc. Et puis au Collège de France, il y a un déplacement éventuellement vers les formes de production de vérité à travers l'histoire et l'historiographie. Hein. Éventuellement, ce sera forme de vérité à travers l'économie politique, quand il parle du néolibéralisme, hein, et le marché qui devient la source de la production de vérité. Éventuellement, avec Louvain, avec les cours plus tard dans Louvain, et bien sûr les derniers cours, ce sera la production liturgique.
Oui, voilà. C'est ça. C'est la production de la vérité sur soi. C'est comment soi-même on produit une vérité qui ensuite nous construit et exerce un pouvoir sur nous-mêmes. Quoi. C'est ça la puissance. Mais avant d'en venir à cette dernière partie, je voudrais qu'on s'arrête un peu sur les formes de vérité. Parce qu'elles sont toujours au pluriel chez Foucault. Ce qui est tout à fait essentiel, parce que ça montre qu'il n'y en a pas une et qu'on ne peut pas, invoquer la science avec un S majuscule ou la justice avec un J majuscule, parce que précisément, ces formes de vérité sont plurielles. Et dans le cours que vous avez édité, Bernard Harcourt, il y a deux formes. Il y a la vérité test après un combat, après une joute oratoire ou un affrontement argumentatif. Et puis la deuxième forme, c'est une vérité constat. Expliquez-nous cette tension entre ces deux grandes formes de production de la vérité juridique.
Oui. Foucault en parle à travers les paradigmes de l'épreuve, d'abord, et ça contient l'ordalie, par exemple, c'est vraiment le combat, les procès par combat, ou bien dans Ménélas et Antiloque, c'est vraiment une épreuve. Il fallait que Antiloque jure à Zeus qu'il était meilleur que Ménélas. Ben c'est une épreuve, parce que s'il aurait dit ça en vrai croyant, il se serait fait frapper à mort.
Bien sûr, parce que le serment, c'est une procédure d'auto-malédiction conditionnelle. Là, exactement. Il est plus avec Ménélas, il a affaire avec les dieux. Là,
exactement,
c'est beaucoup moins drôle.
Exactement. Ouais. Donc ça, c'était toute la première forme qu'il développe, mais immédiatement dans le second cours, il se tourne à Œdipe, roi de Sophocle, où il retrouve un modèle différent d'une production, d'une vérité, encore une fois une production d'une vérité juridique. C'est la décision, c'est le jugement d'Œdipe que c'était lui le meurtrier. Et là, c'est une enquête. C'est pas à travers un combat.
C'est un tout autre modèle
où on interroge. Et ce que Foucault montre qui est vraiment très intéressant, il y a vraiment trois chapitres dans Œdipe. Premièrement, il interroge un peu les dieux et les prophètes. Ensuite, il interroge les rois et les reines. Mais c'est seulement quand il interroge ceux qui ont vu, donc le berger, l'esclave, ceux qui ont une connaissance, qui ont été témoins, physiquement témoins de ce qui s'est passé, qu'il y croit. Donc on voit même un déplacement des formes qu'on pourrait dire d'enquête dans cette pièce, hein, parce que l'enquête, elle aurait pu se faire simplement en demandant à l'oracle, n'est-ce pas, ou ça aurait pu se faire simplement en demandant à Jocaste, la reine, mais il fallait demander quelqu'un qui pouvait voir, qui avait vu. C'était intéressant, le contraste, Foucault fait un contraste avec Homère, où il avait bien montré que pendant la course de char, il y avait quelqu'un qui était placé à la borne pour voir et pour constater le phénix, la personne qui était là pour pouvoir témoigner de ses propres yeux, de ce qu'il avait vu.
Le commissaire de course, on dirait aujourd'hui.
Exactement, on lui demande rien. On lui demande rien à Homer, hein, parce que c'était pas une question d'une enquête. C'était pas une question de savoir ce qui s'était passé.
Comme si les faits n'avaient pas d'importance. Ce qui était important, c'était de restaurer l'ordre, la procédure aléturgique, hein, toujours le terme de Foucault, c'est-à-dire la procédure de vérité. C'est une procédure qui doit reconstruire l'ordre, qui doit attester l'ordre et non pas cette attention que va avoir l'enquêteur au fait.
Oui. Et dans Sophocle, bien sûr, ça reprend donc l'ordre, l'ordre de des relations anciennes dans l'Antiquité, la même chose dans Homère. Mais ce qu'il faut comprendre, et ça c'est la chose la plus importante, c'est que c'est la même chose chez nous aujourd'hui. Et donc, c'est ça qu'on ne voit pas, mais qu'il essaye de nous présenter.
Ces formes existent toujours.
Que ces formes existent aujourd'hui et elles ne servent qu'à reproduire un ordre social. Elles ne servent pas à trouver la vérité de ce qui s'est passé, mais de reconstituer un ordre social. Et on devrait en parler dans le contexte du plea bargaining aux États-Unis.
Blood will flow, flesh and steel I want, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away. Something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. Nothing comes from violence, but nothing ever could. For all I was born beneath an angry star. Lest we forget how fragile we are.
Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser, toujours avec vous Bernard Harcourt pour parler de l'aveu chez Foucault. Et vous avez décidé de nous faire entendre Fragile.
Et oui. Quand vous m'avez demandé pour une chanson à laquelle j'aurais pensé en liaison avec la question de l'aveu, la ligne de Sting m'est toujours revenue à la tête. Something in our minds will always say. Something in our minds will always say. Il y a quelque chose qu'on dira toujours. Et bien sûr, dans cette chanson, ce qu'il dit, c'est que il n'y a rien qui vient de la violence et qu'il faut reconnaître notre propre fragilité.
Notre propre fragilité et notre propre inclinaison à nous livrer, voire à nous lier. C'est tout le mystère, en quelque sorte, de l'aveu. Mais vous avez terminé en nous alléchant, en quelque sorte, en disant, oui, ces formes de vérité, ces formes juridiques de vérité, tout le génie de Michel Foucault dans Mal faire, dire vrai, mais ça traverse toute son œuvre, et là je vous suis absolument, c'est de montrer l'actualité des textes anciens, c'est de montrer la persistance de ces formes de vérité. C'est pas des formes antiques. Il y aurait pas quelque chose comme une antiquité obscurantiste, irrationnelle, mythique, qui croit au Dieu, et puis une modernité entièrement rationnelle. C'est pas comme ça. En réalité, nous sommes toujours tributaires de ces formes de vérité. Et vous terminiez, Bernard Harcourt, en parlant du plea bargaining. Est-ce que vous pourriez développer?
Oui, bien sûr, Antoine Garapon. Ce que j'essayais de dire là, c'est que en fait, ces formes de vérité, elles continuent aujourd'hui. Voilà. Quand j'enseigne à Columbia, à New York, mes étudiants en droit pénal, je lis ce texte de Foucault avec des cas d'Alabama dans la période antebellum, pendant l'esclavage. Avec des cas, en fait, de procédures pénales sur des cas d'esclaves qui ont tué ou fait des attentats de meurtre contre leur maître. Et ce qui est absolument remarquable dans ces cas, donc c'est 1847, 1850, c'est qu'il y a toute une procédure, comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, il y a une procédure pénale.
Il n'y avait pas de lynchage, on ne les exécutait pas tout de suite.
Ah non. C'est des cas où la Cour suprême d'Alabama renverse une condamnation pour un nouveau procès. Parce que, par exemple, le maître avait battu l'esclave pour la confession, quand ils étaient allés au magistrat après, le magistrat a posé des questions à l'esclave devant le maître. Hein? Donc, des technicités, enfin, on reconnaît toute cette technicité de l'interrogation depuis le droit romain, bien sûr, on le retrouve dans les instituts, etc. Mais 1850, un esclave qui avait tué ou fait un attentat de meurtre contre son maître se retrouve condamné à travers un procès où il ou elle, dans ce cas-là, Clarissa, avait un avocat qui la représentait. Elle se fait condamner, elle fait un appel et la condamnation est annulée parce qu'il y avait une procédure. Et alors, quand on regarde ça, 1850, Alabama, on se demande, mais qu'est-ce qui se passait? Pourquoi? Et ce qui se passait, c'est que les maîtres recouvraient à peu près 50% de la valeur de l'esclave quand ils étaient exécutés par l'État pour un meurtre, disons. Et il y avait même de la législation qui voulait lever ça à 100% plutôt que 50%.
D'indemnisation, à titre d'indemnisation.
Et le gouverneur a dit non, il faut que ça soit 50%. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il fallait que ça soit 50%? Pour qu'il n'y ait pas trop de raisons d'accuser des esclaves. Faussement.
C'est ça. C'est très intéressant cet exemple.
C'est justement, il y avait toute une réglementation qui soutenait l'esclavage, en fait. Soutenait un certain ordre social. Sans lequel... ça n'allait pas marcher, en fait. Et c'est ça, donc on peut aller chez Homère avec Foucault, on peut aller chez Œdipe avec Foucault, on peut avancer à cette période d'esclavage aux États-Unis pour voir comment le droit crée une vérité et une possibilité d'avoir même un système d'esclavage. Et il faut se poser la même question aujourd'hui, comment est-ce que le droit et les formes de droit et les réglementations de droit rendent possible le système social qu'on a. Et c'est pour ça que je parlais du plea bargaining.
Oui, et non seulement rendent possible, mais alimentent, rechargent les batteries de reconnaissance de cet ordre. Parce que ce que je trouve très intéressant dans l'exemple que vous venez de nous dire, Bernard Harcourt, c'est qu'on voit deux choses essentielles aux formes de vérité. La forme de vérité, elle déplace, elle opère un déplacement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver la vérité de manière désordonnée, parce que si on la trouve de manière désordonnée, elle ne sera pas crédible. Elle ne sera pas structurée. Et donc, il faut qu'il y ait un déplacement. Ce déplacement va d'ailleurs subir des orientations différentes. Le déplacement, ça peut être, on va envoyer des gens sur les lieux, entendre les témoins, recueillir des preuves, ce que font les policiers de France et de Navarre, ou comme les États-Unis tous les jours, et puis on ramène ces preuves pour les examiner, pour constater. Le déplacement, ça peut être aussi d'appeler tout le monde à la cour, d'appeler tout le monde en cour, tous les témoins, pour refaire l'événement, un peu ce qui se passe aux États-Unis, avec le procès américain. Donc il y a ce jeu de déplacement et sur lequel Foucault insiste, mais il a compris que toute la procédure de vérité, c'est un jeu de déplacement. Et la deuxième chose, c'est cette dimension rituelle, c'est-à-dire que à la fois dans une affaire, la Cour suprême d'Alabama va donner tort au propriétaire de l'esclave, et en même temps, ce faisant, il va renforcer la légitimité de cette chose horrible qui était contraire à la dignité humaine par cette procédure de vérité. C'est toute l'ambiguïté, en quelque sorte, de ce que Foucault appelle les formes de vérité.
Oui. Et puis les formes de vérité qui, éventuellement, deviendront l'examen, n'est-ce pas? C'est vraiment ça. Donc, on voit le parcours qui nous mènera de Homère à Œdipe, donc de l'épreuve à l'enquête, et puis de l'enquête à l'examen, éventuellement, qui nous amènera à surveiller et punir, ou la vérité qui est produite, c'est une vérité sur l'individu comme délinquant, Mais une vérité qu'il faut passer à travers l'incarcération, la détention, donc la prison comme moyen de produire une vérité.
C'est ça. Et de produire un profil qui sera le profil délinquant et qui sera le sujet, l'objet d'un savoir médico-social et qui va, d'où cette phrase provocante de Foucault, mais qui prend tout son sens aujourd'hui, des rebelles sociaux, des rebelles politiques qui s'affrontaient à l'ordre établi, notamment à l'ordre monarchique, rentrent en prison et en ressortent des délinquants, c'est-à-dire des délinquants constitués comme objet du savoir médico-social. Mais un mot encore sur le plea bargaining,
parce que
j'ai la chance d'avoir un professeur de droit américain en face de moi. Donc, quel est l'échange qui se fait autour du plea bargaining? En un mot, en quoi ça consiste? Et quel est l'échange qui se fait autour du plea bargaining?
Alors, l'échange qui se fait, c'est un coût-bénéfice.
Alors, qu'est-ce que c'est en un mot? C'est on négocie sa peine avec le procureur.
Exactement. On négocie un niveau de peine plus bas avec le procureur pour échapper, pour éviter que le procureur doive faire le procès entier, etc., qui est coûteux pour l'État. Donc, on évite tous les coûts du procès même. Et d'autre part, on a une peine un peu réduite. Donc, on plea à un niveau un peu plus bas ou pour quelques années de moins.
Mais en avouant.
En avouant. C'est très, il y a une procédure aux États-Unis qui s'appelle the Alford plea où on peut reconnaître ou bien être jugé coupable volontairement tout en niant sa propre culpabilité. C'est assez rare,
mais c'est quand même très significatif d'un aveu totalement stratégique.
Exactement.
Qui n'a rien de ce que nous ressentons nous autres latins de culture catholique ou dans l'aveu en France, il y a l'idée qu'on reconnaît l'ordre établi et qu'on reconnaît le pouvoir de l'Église. Il y a toujours cette idée quand même, on fouille l'intériorité, ce qui va beaucoup obséder d'ailleurs Michel Foucault. Là, on est totalement dans un univers d'acteurs rationnels, de choix rationnels.
D'utilitarisme, exactement. C'est mieux pour moi, c'est mieux pour toi. Voilà. Donc, on fait ça. Je nie en fait que je l'ai fait, mais ça va, je prends la peine et puis on continue. Voilà. Ouais. C'est vrai, c'est toute la stratégie, ça. Hein. Mais c'est une production de vérité dans le sens que le système américain de la justice ne fonctionnerait pas sans le plea bargaining.
Oui, c'est ça. Et vous travaillez beaucoup d'ailleurs, là vous avez édité ce livre il y a déjà un certain temps d'ailleurs, il y a quelques années, vous travaillez, Bernard Harcourt, sur précisément la justice pénale américaine et toutes ces stratégies qui sont parfois assez inquiétantes sur justement pour réassurer une domination symbolique et contrôler l'ordre social.
Oui, et ça passe bien sûr par plusieurs mécanismes aujourd'hui, ça passe par tout un mécanisme du numérique et du pouvoir qui circule d'une manière complètement différente aujourd'hui qu'elle ne circulait à l'époque où Foucault écrivait en 75 ou 81 même, à cause du numérique et aussi à cause du 11 septembre qui a vraiment tout changé aux États-Unis.
Mais et pourtant Foucault vous aide à penser tout cela, Bernard Harcourt.
Eh bien oui, c'est parce que c'est vraiment la manière de penser. C'était sa manière de penser, c'était sa méthode, qu'on retrouve dans ce cours à Louvain,
d'une manière exemplaire.
Mais c'était cette manière d'essayer de comprendre comment le pouvoir circule et comment ça change. Et donc on le voit très bien, par exemple, de Homère à Sophocle. Ensuite, bien sûr, dans ce cours même, il va à travers la période patristique et puis ensuite il va jusqu'à Balladur, donc on fait tout le parcours humain avec des formes différentes. Et puis aujourd'hui il faut encore penser que il y a encore de nouvelles formes.
Alors justement, il y a de nouvelles formes, Bernard Harcourt, en lisant la très longue postface que vous avez écrite avec Fabienne Brion et intitulée Situation de cour, vous dites quelque chose qui me semble extrêmement vrai aujourd'hui. Vous dites en quelque sorte, l'aveu permet de lier l'individu à l'énonciation de sa vérité. C'est-à-dire, on normalise l'individu en le faisant énoncer sa vérité. Et je pense à deux exemples. Le premier exemple concerne les soins palliatifs, où il y a une sorte d'injonction délivrée au mourant pour parler sa mort. dire sa mort, dire qui vous êtes, dire comment vous voulez mourir. Et il y a aussi autre chose qui avait été d'ailleurs observée par une sociologue, c'était, elle analysait comment se passe, la loi française oblige les personnes qui veulent pratiquer une IVG, une interruption volontaire de grossesse, à un entretien. C'est la seule condition, un entretien. Et cet entretien, c'est de dire pourquoi est-ce que vous voulez une IVG. Et je crois que là, on a une ébauche de solution. Énoncez votre vérité, et ensuite, cette vérité vous lira.
Oui, oui. C'est presque comme se retrouver au début du cours où le psychiatre dit au patient dites-moi bien que vous étiez fou. Hein? Oui, dites-moi bien que vous êtes cette personne, que vous l'étiez dans le passé, que vous ne l'êtes plus aujourd'hui. Dites-moi que vous êtes quelqu'un qui veut un avortement. Et il faut l'avouer, il faut se reconnaître de cette manière-là. Donc c'est un acte assez violent en fait.
Hein. Ah bah oui, intrusif et violent, oui, parce que et surtout c'est une manière de lier, c'est-à-dire que il y a une injonction à avoir un projet. Quel est votre projet de vie?
Exactement.
Et tous les dispositifs sociaux d'ailleurs sont assortis de cette obligation, cette injonction d'énoncer son projet de vie, ce qui est une nouvelle forme d'aveu. Je sais pas ce que vous en penserez, Bernard Harcourt.
Non. Ben, c'est une nouvelle forme de relation de pouvoir, n'est-ce pas?
C'est
donc l'aveu fonctionne comme moyen, comme technique d'essayer de faire circuler le pouvoir d'une manière différente. Donc, aux États-Unis, particulièrement à cause des règles sur le droit à l'avortement, Roe versus Wade, 1972, le pouvoir ne peut que circuler à travers l'expression de soi, de son désir, de ce qu'on veut faire, etc. Ça ne peut pas circuler à travers la prohibition. Donc, ça doit circuler quelque part d'autre. Et c'est à travers cette question d'aveu, de vérité.
C'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile à comprendre chez Foucault, c'est que on entretient un rapport de pouvoir à soi-même, ou on pourrait dire que moi, ce serait ma lecture. Je ne sais pas si vous allez l'accepter en tant que Foucaldien patenté. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, l'aveu à soi est le miroir, a un effet miroir par rapport à un ordre social. Il y a d'abord une première mise en ordre par le langage, et puis ensuite, il n'y a pas de sujet qui ne soit pas le reflet, on pourrait dire, d'un ordre plus grand, d'un ordre social plus grand, qu'il soit d'ailleurs un ordre répressif, un ordre sanitaire, un ordre religieux. Il y a beaucoup à réfléchir aussi sur les pères de l'Église. Ça occupe quand même beaucoup de la réflexion de ces derniers livres.
Miroir.
C'est-à-dire que pour comprendre, qui pour moi est une aporie sans ça, c'est-à-dire que où se trouve ma liberté, si dans le simple fait de l'énoncer, et de l'énoncer à quelqu'un, voire de me l'énoncer à moi-même, je suis pris dans un rapport de pouvoir. Et pour moi, là, il me semble qu'il y a une difficulté. Alors, je la reformulais peut-être différemment. Il y a un autre mot grec que Foucault aimait beaucoup, qui va être très très important. Bernard Harcourt, c'est la parésia.
Oui,
courage de la vérité. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer, la parésia?
Eh bien, écoutez, c'est un moment très important, ce livre, pour ce passage, comme vous avez dit, Antoine Garapon, exactement, de l'aveu à la parésia. L'aveu fonctionne à ce moment-là, en 81, comme le moyen de, je pense, le moyen de vraiment articuler cette question de la subjectivité, du rôle de la subjectivité dans le savoir et pouvoir. Et ça ouvrira tout un domaine pour Foucault, qui seront les cours des derniers 3 ans, qui finiront avec le courage de la vérité, où il tournera un peu de cette question de l'aveu sur soi-même vers la parésia.
Alors la parésia, c'est le courage de la vérité.
Le courage de la vérité, qui a une relation différente un peu avec l'autre. Donc le travail que ça fait, la parésia, avec l'autre aussi, est différent que l'aveu. Mais il y a quand même dans la parésia, enfin, et donc il faudra des histoires de la parisia. Il fera des études des différentes catégories de la parisia. Donc, on peut regarder que ce soit Diogène ou bien Socrate. Ce sont des différentes modes parésiatiques qu'il essaiera d'étudier.
C'est aussi dire la figure de l'homosexuel dans les sociétés qui représente cette différence qui interpelle et qui renvoie une vérité différente.
Oui, enfin...
C'est ce que j'ai lu dans la, sous la plume de Frédéric Gros, dans son...
Okay.
Toujours ce léger décalage.
Ouais. Mais tout de même, le travail sur la parésia sera une forme de véridiction un peu différente que le travail sur l'aveu.
Oui, voilà. Alors c'est ça ma dernière question, Bernard Harcourt, parce que il y a quand même, pour moi, Foucault semble avoir trouvé sa vérité, sans mauvais jeu de mots, dans l'idée de parésia, le courage de la vérité. Mmh. C'est la définition de l'intellectuel, celui qui a le courage de penser contre tous, de vivre contre tous, et de dire quelque chose qui ne procède plus d'un rituel de vérité, qui ne procède plus d'une alliturgie comme le font les scientifiques, comme le font les juges, bien sûr, ou comme le font les institutions religieuses. C'est la force du philosophe. Mmh. Dans le fond, la parésia, c'est la singularité de la position du philosophe qui ne pourra jamais s'accommoder de l'académie. Mais est-ce que dans cette figure de la parésia, de l'intellectuel libre, qui détecte la part de pouvoir qu'il y a dans la connaissance, à la suite de Nietzsche d'ailleurs, est-ce que il retrouve pas finalement une tradition prophétique ? Est-ce qu'il retrouve pas une forme très ancienne et très structurante d'ailleurs pour nous de la relation du prophète et du roi ?
Alors je dirais... Antoine Garapon, je dirais que c'était une des modalités de la parésia qu'il a retrouvée et qu'il a développée. Mmh. Mais il y en avait d'autres. Celui qui me semble le plus près de Foucault lui-même, c'était en fait Diogène.
Ah oui. Ouais.
Mais de toute façon, il faut pas trop, je crois, il faut pas trop se pencher exactement sur cette question partiellement biographique de Foucault, je crois. Donc, quelle est la forme parésiastique qui lui convenait le plus ou dont il représentait le plus? Bien sûr, le courage de la vérité, oui. Mais je pense qu'il faut bien se comprendre que il est mort jeune, Foucault, et il y avait beaucoup de travail qu'il allait faire.
Oui, d'ailleurs, il a travaillé jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour.
Jusqu'au dernier jour, mais disons que toute cette pensée, où on ajoute l'aveu, on ajoute la parésia, ensuite, c'est du travail à faire à l'avenir, pour revenir sur et pour nouer toutes ces idées dans une philosophie critique.
C'est ça. C'est peut-être ce que nous lègue Foucault avec sa mort prématurée, que tous ses lecteurs regrettent, bien sûr. Eh bien, c'est que la jonction, il y a des jonctions, il y a des développements de sa philosophie qui sont toujours à effectuer. Merci beaucoup Bernard Harcourt.
Merci Antoine Garapon.
Matière à penser, Bernard Harcourt, Manu Couturier, Sandrine Chaperon, Catherine Denet, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon. Et demain, je vous donne rendez-vous pour continuer ces conversations sur l'aveu avec Jérôme Porret, où là, on s'intéressera à un autre auteur, Paul Ricoeur.
Ouais.
Bonsoir.
Toi-même.